Premier sujet ce matin, mon cher Pierre-Yves, le niveau d'endettement des gens.
Oui, arrêtons d'en parler. Dans le fond, je blague, mais encore une fois, un titre alarmiste. La dette des ménages croît toujours, note la Banque du Canada. Oui, OK, on prend ça isolément, puis on dit la dette des ménages augmente. C'est donc épouvantable, tu sais. Mais tu sais, quand tu me donnes un bonbon, on est jour après l'Halloween, puis tu me dis, hey, il y a beaucoup de bonbons chez vous, mais tu te dis, attends une minute, là. C'est exactement ce que tu me dis de faire. La dette, c'est un outil d'investissement. Depuis le début de l'année, si on prend l'indice américain du S&P 500, tu fais 20-25%. Puis là, tu me dis que moi, je devrais rembourser mes dettes de maison plus vite. Moi, tu me dis de ne pas utiliser tout ce qu'on me donne comme prêt variable avec les outils d'investissement que je peux avoir parce que tu juges que mon endettement est gros de façon collective. Faudrait peut-être mettre ça en perspective. Faudrait peut-être commencer à parler d'endettement en lien avec l'investissement. Il faudrait peut-être regarder l'évolution de l'actif net des Canadiens, mais évidemment, ce sont des données privées. Comme par exemple, Paul, les banques peuvent pas savoir avec leurs données quel est mon actif net réel, parce qu'ils n'ont pas la valeur de ma maison en valeur marchande tous les jours. Ils n'ont pas la valeur des placements privés des gens. Ils n'ont pas accès à savoir si les gens ont 50 000 piastres cash dans leur compte, dans leur coffret à maison.
Mais en fait, ce que tu dis, là, on n'a pas le portrait de chaque Québécois, mettons, là, sur l'ensemble de ses finances. Mais moi, je te pose la question, là. Quelqu'un qui est allé chercher là, le prêt maximal pour sa maison, qui a des revenus qui sont relativement stables, une fluctuation, exemple, des taux d'intérêt, il risque de se retrouver dans le trouble un peu quand même.
Oui. Mais en même temps, cette personne-là qui, par exemple, allait s'endetter il y a 2 ans, par exemple, d'un montant grand pour sa maison, puis que sa maison a pris 100 000 en 2 ans, bien, sa maison a pris 100 000 sur de l'emprunt. Alors, s'il ne s'était pas endetté, s'il n'avait pas utilisé l'effet de levier, il aurait beau eu avoir 50 000 dans son compte de placement, bien, il n'aurait pas eu l'effet du gain de valeur sur sa dette. Je te donne un exemple. Si tu as 50 000 de placement dans ton REER, 10 % c'est 5 000. Si ta maison prend 10 % d'une période folle, c'est 50 000. Et donc, ça démontre que la diversification de placement, c'est pas juste pour avoir des placements un peu partout, c'est de profiter de l'effet de levier de la maison. Puis ça, c'est l'autre affaire. C'est que je suis pas le genre à prôner l'endettement. Mais j'aime ça qu'on regarde l'endettement dans ce qu'il est. Il y a 3 types de gens endettés. T'as des gens endettés de consommation seulement. Ça, c'est des gens qui ont de la misère à le payer, leur dette de consommation.
La ligne de crédit, puis la carte de crédit.
Puis c'est tout pour payer du linge, des choses courantes, mais il n'y a pas d'actifs derrière. T'as les gens qui ont des dettes. Donc, ta carte de crédit est loadée, mais t'as quand même des actifs avec du capital dessus. Et t'as les gens qui sont 100 % des dettes pour investir, soit en bourse, soit sa maison. Donc, quelqu'un, Paul, par exemple, qui t'a plus 2 ans, aurait dit, « Sais-tu quoi? » Je rembourserai pas ma maison de façon anticipée, je paye juste 1,4% dessus, je vais aller remplir mon CELI à la place. Ben, qu'est-ce que tu veux? Il a quand même fait de l'effet de levier, là. Il a payé moins cher sa dette au net que ce que ça y rapporte au net. Et donc, c'est une bonne chose au niveau théorique. Évidemment, ce qui fait peur à la Banque du Canada puis à tous les intervenants du milieu, c'est un choc. C'est-à-dire, si tu montes les taux éventuellement de 1%, 1,5%, 1,5%, qu'arrivera-t-il aux gens qui ont utilisé l'effet de levier de façon excessive? Et c'est là le problème. C'est ça qu'on devrait parler. Donc, le risque, il est là. Mais les jeunes doivent tirer une leçon de ce qui se passe présentement. On voit Québec solidaire qui sort, qui dit « Faudrait aider les personnes âgées qui sont vulnérables à l'inflation, augmenter le crédit d'impôt pour solidarité. » On voit les groupes de retraités qui ont perdu leur régime de retraite à cause de la chute de leur employeur. Tout ça veut dire quelque chose. Tu peux pas ignorer la partie de Monopoly dans laquelle tu joues. Et si tu décides d'être un salarié toute ta vie, parce que tu as le choix, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas le choix, ils sont pris dans la course du salarié parce qu'ils n'ont pas assez de revenus. Mais les autres voient ça, là. Ils voient leurs parents, leurs grands-parents, les grands-oncles, les grandes-tantes vivre des échecs financiers. Et c'est là que les jeunes doivent dire, faut embarquer dans le game nous aussi, on n'a pas le choix. Parce que si tu veux être salarié toute ta vie, il y a des dépenses de vie qui ne se paient pas avec du salaire. Et donc, tu auras besoin de demander d'entrer dans la partie de l'investissement et un peu t'endetter. Et c'est pour ça que je mets tout ça en contexte. Mais c'est mieux de ne pas avoir de dette, c'est sûr, quand tu as les moyens, mais c'est payant parfois d'en avoir.
Parle-moi de la semaine de la planification financière.
Oui, il y a un sondage qui sort. Et Paul, on sait que les sondages servent toujours à faire valoir un point, mais je te donne un exemple. 68 % des Québécois estiment ne pas disposer de toutes les connaissances nécessaires pour planifier adéquatement leur avenir financier. Ah là, tu dis, mon Dieu, c'est donc épouvantable. Mais d'un autre côté, si tu demandes aux Québécois, est-ce que vous possédez toutes les aptitudes nécessaires pour faire tous les repas en cuisine? Ils vont dire, ben non. Ben c'est ça, tu sais, je connais pas toutes, alors les Québécois avouent qu'ils connaissent pas toutes, c'est un peu normal. Deuxième résultat, plus d'un Québécois sur trois n'a pas de plan en ce qui concerne son propre avenir financier. Oui, mais il y a probablement une forte partie des Québécois, de toute façon, qui n'ont pas les moyens d'avoir une planification financière, c'est-à-dire que tu dis, regarde, moi je survis. Donc, ils seront toujours dans les statistiques. T'as bien beau me faire un plan de retraite, un plan de REER, si je peine à payer mes affaires quotidiennes, ça me donne quoi de me faire balancer ça par la tête? Un autre point, les études démontrent que les 10 dernières années d'épargne, c'est les premières années qui sont payantes. Bon, ça, c'est pour dire au monde d'aller épargner. On dit aussi que 30% des gens prévoient quitter le marché du travail tôt. Mais évidemment, c'est pas en corrélation avec le plan qu'ils ont, un classique.
Non, t'as beau le souhaiter, ça veut pas dire que tu vas être capable.
Exact. Donc, écoute, c'est sûr qu'ils veulent proposer aux gens à l'IQPF de planifier leur retraite. Mais tu sais, quand on me dit qu'il y a des gens qui n'ont pas accès à un planificateur financier, je leur répondrais, quand tu arrives dans une institution financière, tu te dis, je veux voir un planificateur financier, on va dire, ben commence par rencontrer un conseiller en épargne collective puis d'épargner, puis on fera de la planification plus tard. Donc, c'est normal qu'il y ait un pourcentage de la population qui s'en serve pas.
Merci, monsieur. Salut. Bonne journée. 7h21. Accident sur l'autoroute des Laurentides.